Je m'appelle Sarah Normandin et je suis nutritionniste depuis plusieurs années. Ma passion, c'est d'apprendre à retrouver le plaisir de manger, de te montrer que ça peut être simple, mais surtout de t'aider à faire la paix avec ton corps et avec les aliments. Dans le podcast « Le maudit poids », prépare-toi à être surpris, à peut-être même être choqué par ce que tu vas entendre, mais fais-moi confiance. Le chemin vers la libération en vaut vraiment la peine. T'écoutes le podcast et tu te dis « Oh wow, ça me parle, mais ich, j'y arriverai pas toute seule, j'ai vraiment besoin d'avoir un accompagnement personnalisé. » Bien, ça tombe bien parce que j'offre des consultations individuelles partout au Québec. Je t'invite sur mon Linktree, sur Instagram ou mon Facebook ou encore sur mon site internet pour en savoir plus. Petite mise en garde, dans cet épisode, on parle avec Camille Dégé, la fille du cahier que vous connaissez peut-être. On va parler de préoccupations corporelles, d'images corporelles plus difficiles dans son partage de vécu. Oui, Camille, c'est une personne qui vit dans un corps mince, donc si ce sujet-là est trigger pour toi, je t'invite à passer à un prochain épisode. Salut tout le monde! Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Le Maudit Poids. Aujourd'hui, je suis tellement contente. Je suis avec Camille Dégé, a.k.a. la fille du cahier de tellement d'autres choses. Je ne sais pas comment te présenter, Camille.
Je pense que depuis le début de ma carrière, c'est une question que j'ai beaucoup, mais la fille du cahier, c'est bon. Fille du cahier, fille de code mort, c'est un petit mélange.
Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça, je voyais aussi. J'étais comme, ah, c'est bon, parfait, good. Fait que c'est ce qu'on disait avant de commencer l'entrevue, mais ça fait longtemps que je suis le cahier. Ça fait, je sais pas depuis combien de temps ça existe.
Le cahier en tant que tel a 10 ans.
Depuis une couple d'années.
Oui, ça a 10 ans le cahier, puis auparavant ça s'appelait juste Camille Dégé, mais il y a d'autres filles. C'était beaucoup des filles, il y avait un gars qui s'était mis à écrire. Puis là, je trouvais ça bizarre que ça soit toujours sous mon nom. Donc, c'est pour ça qu'on a trouvé un nouveau branding à l'époque, parce que je disais, non, les gens pensent que j'écris tous ces textes-là. Et, c'était pas tout le temps mon opinion, parce que j'aime la pluralité des opinions. Donc, c'est là qu'on s'est dit, on fait un rebranding, puis oui, ça fait déjà 10 ans.
Oh my God, c'est ça, hein? J'aimais ça, ça fait longtemps. Wow, OK. Wow, OK, oui. Parfait.
Ça ne nous rajeunit pas, disons ça comme ça.
Ouais, c'est ça, hein? T'as raison. Mais bravo, bravo pour tout ça.
Merci, merci.
Fait que là, Camille, dans le fond, j'ai fait une demande dans un groupe de femmes entrepreneurs, puis je suis vraiment contente que tu aies levé la main parce que tu parles, t'en as même parlé dans certains blogs, certains articles de les commentaires qu'on peut recevoir quand on est un corps qui n'est pas nécessairement, j'ai le goût de dire, dans les standards de ce qu'on s'attend d'une femme, je ne sais pas si je le dis bien, parce que là, je parle souvent, je reçois souvent des gens qui sont dans des corps gros, on va souvent parler de leur réalité, mais on oublie qu'il y a des femmes qui ont des corps qui ne fitent pas nécessairement dans le fameux standard qu'il faut avoir des certaines proportions, on va dire ça comme ça. Quand on a un corps qui est plus musclé ou autre chose du genre, ben on dirait que c'est comme... C'est très jugé, mais c'est peu parlé. Puis là, comme le podcast s'appelle « Le maudit poids », ben ça l'inclut tous les types de poids. Fait que je suis vraiment contente qu'on aborde ce sujet-là aujourd'hui.
Oui, bien peut-être que je commencerais par dire, tu sais, je pense que le poids en général, puis la vision du poids a beaucoup évolué au cours des 20 dernières années. Moi, j'ai pas de gêne, je le dis, j'ai 36 ans. Et quand je suis arrivée sur Internet, la réalité de la diversité corporelle du poids était très différente d'aujourd'hui. Tellement. Et souvent, quand j'ai abordé les sujets, je me suis fait réprimander, je me suis fait dire « Non, tu n'as pas nécessairement le droit de parole parce que tu rentres dans certains critères ou tu as un corps que certaines personnes peuvent envier. Oui, donc, tu n'as pas le droit de parole. » Et moi, personnellement, quand je parle de poids maintenant ou d'apparence ou de transformation avec soit les chirurgies, soit les applications, je ne le fais pas pour moi. J'en ai plus besoin, tant mieux. J'ai la chance d'avoir moi-même évolué. J'en aurais peut-être eu besoin à une autre période. Et c'est pour des filles qui en ont peut-être besoin que je trouve ça important de le faire. Puis pourquoi je trouve ça important que tout le monde ait le droit de parole, c'est que ce qui se passe entre nos deux oreilles, par rapport à notre vision de notre corps, de notre apparence physique, ça ne regarde que nous et ça peut arriver peu importe le poids. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans des problèmes d'anorexie avec des filles qui deviennent extrêmement maigres, mais qui continuent de, elles, se voir comme trop rondes. Et je vais prendre un exemple de culture populaire. Dans la Stéristat, tu as une fille qui en vient à mourir, tu sais, qui va aller jusque-là. Puis je pense que plusieurs personnes ont écouté ça. Moi, cet épisode-là est venu me chercher énormément parce que souvent, quand on parle de poids, c'est des gens qu'on va écarter parce que dans certains standards, elles les atteignent. Et quand moi, je suis arrivée sur Internet, il y a fort longtemps, 2008-2009, on était encore dans la vision de beauté des années 90 des supermodèles, donc des femmes qui sont très grandes, qui sont élancées et qui sont très, très minces, voire maigres, qui n'ont pas de forme. Pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas d'Internet, moi, je suis une fille qui a toujours été musclée. Je suis musclée depuis que je suis vraiment toute petite parce que j'ai commencé à faire du sport de compétition très, très jeune. Je suis quelqu'un qui adore performer. Puis moi, je dis souvent la blague, vous excusez si vous allez trouver ça vulgaire, mais moi, je fais un pet puis je muscle. T'sais, c'est comme « oups ». Il y a des corps qui sont comme ça. Il y a d'autres corps que non. Donc, quand moi, je suis arrivée à l'adolescence puis à côté jeune adulte, j'ai vite réalisé que j'étais beaucoup plus forte physiquement que les autres filles, ce qui peut être un avantage dans plein de choses, dont le sport. Mais que quand tu te définis en tant que femme, à l'époque, les muscles, c'est pas quelque chose qui était valorisé. Pas comme aujourd'hui. Il faut être capable de retourner dans les époques, puis dans les modes, puis dans comment le corps évolue. Donc moi, quand je suis arrivée sur Internet, mon côté un peu de montrer des looks sur une fille qui mesure 5 pieds 3, qui était capable de bencher plus que 100 livres, c'est-à-dire, ben moi aussi, j'ai le droit de m'habiller, puis que les vêtements fitent sur moi, parce que quand je regarde ce qu'il y a à la télé, puis à l'époque, ce qu'il y avait dans les magazines, ben non, je ne mesurais pas plus que 5 pieds 7, 5 pieds 8. Puis j'avais des hanches, j'avais des cuisses, j'en ai encore. Donc, ça a été là que j'ai eu le déclic de vouloir faire ça. Par contre, dans toutes mes bonnes intentions de vouloir le faire, en arrière, il y avait plein de bobos qui criaient. Fait que j'avais un côté où j'avais envie, on dirait, de présenter quelque chose qui me représentait, puis de défaire des standards. Puis de l'autre côté, j'avais profondément envie de rentrer dans ces standards-là parce que j'avais profondément envie moi-même de me trouver jolie. Puis moi-même, quand je voyais mes photos, celle que j'aimais, c'est celle où j'avais l'air d'être cette femme-là des magazines. Donc, il y avait une grosse dichotomie entre ce que je faisais, ce que je représentais et ce que je ressentais. Puis c'est pour ça que je trouve ça important quand on parle de poids, que tout le monde soit invité à la table.
Oui, bien, c'est vraiment un excellent point, parce que pour les gens qui sont peut-être moins au courant ou qui te connaissent pas ou qui viennent pas des années 90 ou 80, on va dire ça de même, moi, je me rappelle là, avoir vu des commentaires passer, puis je me rappelle, j'ai lu ton article aussi où tu disais que tu te faisais faire des commentaires négatifs par rapport à ton apparence parce que justement, tu étais une femme puis tu étais musclée, puis nombre de commentaires à cette époque-là que les gens faisaient, même les hommes. J'ai des filles qui m'ont dit souvent, là, tu sais, je me suis fait dire, le CrossFit, c'est pas pour les filles, c'est pas beau, une fille musclée, c'est pas sexy, ou des choses comme ça, puis c'est comme, mais voyons donc, tu sais. Mais là, aujourd'hui, t'as raison que la culture, elle switch un petit peu plus, puis l'entraînement est plus valorisé, la musculature et tout, mais reste que je trouve ça quand même important d'en parler, parce que même les personnes qui vont être minces, musclées et compagnie, ben ils vont quand même se faire dire... Ah ben toi, tu peux pas commenter, toi, t'es ci ou t'es ça, toi, t'es chanceuse, toi, t'es mince. Ou... Mais ça veut pas dire, comme tu dis, que la personne n'a pas ses propres complexes, pas ses propres, je vais dire, blessures même, des fois, justement, en lien avec son apparence. On a toutes nos petites choses, finalement. Puis je pense que la grosse nuance qu'il faut apporter dans ce genre de discours-là, puis je pense que là où des fois, encore aujourd'hui, ça soulève beaucoup d'indignation, c'est que la grosse nuance, c'est qu'on n'est pas en train de nommer que les personnes qui sont dans des corps minces vivent la même chose que les personnes qui sont intimidées dans des corps gros. C'est pas du tout la même chose, mais ça veut pas dire que les personnes qui sont dans les « standards », entre guillemets, mettons « standards de minceur », ça veut pas dire qu'ils peuvent pas avoir quand même leur complexe puis leur insécurité, puis c'est tout aussi valable. C'est juste que c'est deux vécus différents.
Mais je suis d'accord avec toi, c'est important. Je pense que la différence, je ne veux pas te couper nécessairement, mais c'est au niveau, c'est au niveau des privilèges.
Oui, bien c'est vraiment, ouais. Tu mets les bons mots dans la bouche.
Une personne qui ne rentre pas dans certains standards qu'on va retrouver dans les magasins n'aura pas va perdre des privilèges par rapport à qu'est-ce qu'elle est capable d'acheter, tout ça.
Tout
Puis
à
va
fait.
avoir, puis là, tu sais, vous l'avez couvert, puis c'est pas à moi de le couvrir aujourd'hui parce que c'est pas ce que je vis, mais tu sais, il y en a qui vont avoir au côté médical qui vont se faire réprimander, etc. Ça, c'est des choses que tu ne vis pas. Quand
Exact.
tu es une personne qui va être plus musclée, qui va être dans les normes de l'IMC, qu'on en pense, qu'on en veuille. Puis moi, c'est la chose que je trouve le plus absurde parce qu'une IMC pour une personne musclée, c'est n'importe quoi,
Ouais,
d'ailleurs.
c'est le cas.
Mais je rentre quand même dans les normes. Fait que j'ai quand même droit à tous ces privilèges-là, mais ça n'enlève pas des fois les bébites qu'on a dans la tête. Fait que je
Exact.
pense que oui, c'est pas du tout les mêmes enjeux, c'est pas du tout les mêmes problèmes. Et je pense qu'une personne qui va vivre de la grossophobie, puis quelque chose que je ne. Que je, J'essaie de comprendre parce que j'essaie de m'éduquer, j'essaie de les écouter. On a eu la chance chez Le Cahier d'avoir une éditrice qui était une personne qui a vécu beaucoup de grossophobie, grossophobie médicale, tout ça, qui en a parlé, qui m'a beaucoup éduquée parce que je travaillais avec elle, je lui posais des questions. Donc, je leur laisse ce combat-là. Je pense juste qu'il y a des filles qui ont le droit d'avoir ce que moi j'appelle nos bébites dans la tête, puis qui se font des fois couper la parole. Je pense que
Ouais.
c'est pas de dire que c'est égal. La vie n'est pas égale partout. C'est juste de
Exact.
dire que est-ce qu'on peut leur tendre la main à ces filles-là aussi, ou à ces gars-là, parce qu'on dit souvent les filles, mais il y a des
Oui,
gars. Est-ce
tout
qu'on
à
peut
fait.
tendre la main à ces personnes-là, puis dire qu'on les écoute, puis qu'on essaie de les comprendre, et qu'on essaie d'ouvrir une discussion aussi avec elle et ils, plus que juste de dire, toi, tu as le droit de parole, toi, tu n'as pas le droit de parole. T'sais. Je pense que c'est là que je vois une grande différence. Mais oui, j'ai et d'autres personnes ont des privilèges que d'autres n'ont pas. Puis ça, il faut en être conscient aussi, quand même, malgré tout.
Oui, totalement. Puis, merci de le dire. C'est un excellent point. Puis, c'est vraiment important de donner de la valeur à ce que les personnes qui se font justement des fois dire non, toi, tu n'as pas le droit de parler, tu es chanceux, tu es dans un corps mince. Bien, c'est quand même, tu as le droit d'avoir des complexes, puis tu as le droit d'avoir une relation plus difficile avec ton corps, puis la nourriture. Puis, comme tu dis, c'est correct que tu en parles, puis c'est correct que tu ailles chercher de l'aide. T'sais. Des fois, on a la culpabilité facile aussi de se dire, bien, de quoi je me plains, t'sais, moi, dans le fond, je suis privilégiée. Oui, mais t'sais, on reste quand même dans une société qui n'est pas évidente. T'sais. Je veux dire, je reviens à l'article que j'ai lu, que tu as écrit, où tu dis, n'importe qui regarde ton corps et comme, ouais, Camille est privilégiée, tu sais. Ouais, mais tu as quand même vécu des commentaires négatifs sur ton poids, tu as quand même eu un cheminement où les gens t'ont critiqué. Ça reste que, ben, ça fait son chemin, ces petites bébêtes-là. Puis justement, c'est ta relation, je pense que ta relation avec la nourriture, avec ton corps en a souffert au fil des années, qui n'est plus le cas maintenant, mais je sais pas si tu veux en parler un petit
Bien,
peu, là.
oui, moi, en fait, je te dirais, il y a les commentaires que tu reçois et il y a les commentaires que toi-même tu te fais. Puis je pense que c'est là que ça vient blesser le plus parce que les commentaires des autres, moi, j'ai la chance que souvent je dis ça me coule comme sur le dos d'un canard. Moi, avec les années sur Internet, rapidement, tu apprends à te dire, ben ça, c'est ma vérité, ça, c'est les personnes qui comptent, ça, c'est les commentaires que je vais écouter, puis ça, c'est tout le reste, c'est tout le bruit. Mais le bruit de la société est plus difficile à effacer que des commentaires qu'on va recevoir à l'époque sur Facebook, qu'on commençait à recevoir sur Instagram. Donc, c'est sûr que quand moi j'étais ado, je valorisais beaucoup le fait moi-même que j'étais forte, que j'étais musclée. C'était quelque chose dont j'étais fière, tu sais, au tout début de l'adolescence, parce que ben, ça me permettait de performer dans les sports. Et je sais que pour certaines personnes, ça va paraître drôle, mais moi, j'étais pas quelqu'un qui était, entre guillemets, populaire ou qui avait beaucoup d'amis nécessairement. J'étais quelqu'un je faisais mes petites affaires. Je n'étais pas non plus, tu sais, il n'y avait pas de problème, mais je faisais mes petites affaires, mais où je me réalisais beaucoup, c'était dans le sport. Donc, tu sais, je remportais des compétitions, je m'entraînais plusieurs fois par semaine avec une équipe. Donc, pour moi, c'était vraiment un endroit où c'était important que je réussisse et mon physique m'aidait. Donc, je voyais vraiment mon corps comme. Puis, tu sais, je nageais pour une équipe qui s'appelait la Blue Machine. Fait que c'est sûr que mon corps, moi, c'était une machine dans ma tête. Puis, j'étais vraiment là-dedans. Et il y avait des filles autour de moi à l'adolescence que j'ai vues vraiment tomber, tu sais, dans de l'anorexie sévère. Tu sais, il y en a une qui a été hospitalisée. C'était quelqu'un qui était très près de moi. Et ça m'a déroutée. Mais malgré tout ça, quand je suis arrivée plus fin de l'adolescence, j'ai eu le déclic que je pense que maintenant les filles ont malheureusement avec les réseaux sociaux beaucoup plus jeunes, puis c'est ça que je trouve super inquiétant.
Oui, oh
Parce
mon
que
Dieu,
moi, je l'ai eu
oui.
à la fin de
C'est
l'adolescence.
ça.
Je me dis, quand tu l'as enfant, tu sais, j'ai lu dernièrement, puis je nommerai pas la personne, mais j'ai lu dernièrement un post d'une maman que je connais dont la fille est à la fin du primaire, est en 6e année, puis elle est rentrée à l'hôpital pour anorexie. Et là,
Aïe,
je me
sixième
disais,
année, c'est
c'est ça, je me
terrible.
disais, ce qui se passe dans la tête de cette fille-là qui doit avoir 11 ans, 12 ans, Moi, quand je l'ai vécu, j'avais déjà au moins 16 ans, donc j'étais capable d'avoir un recul qui doit être difficile. Mais bref, si je ne suis pas médecin, je ne suis pas dans le domaine de la relation d'aide non plus. Donc moi, ce qui est arrivé à la fin de mon adolescence, c'est que d'un coup, je voulais devenir cette femme-là qui, dans ma tête, allait être désirable. Et dans ma tête, pour être désirable, il fallait que j'arrange mes cheveux. J'ai fait ce que toutes les filles faisaient au début des années 2000, là. Je les ai tirées avec le fer plat.
Ben oui, le
Donc,
classique.
tu sais, j'ai fait ça, tout ça. Après, ben, je me suis dit, OK, ben, il faut que je perde du poids, il faut que mes muscles deviennent plus cachés. Et
Aïe, aïe,
c'est là que
c'est
j'ai
fou.
commencé à faire du yo-yo dans ma vie, beaucoup, 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 beaucoup. Donc, ça a été plusieurs années de yo-yo, puis de yo-yo mental, mais de yo-yo mental où, quand tu es quelqu'un qui a fait de la performance, tu es quelqu'un qui peut tomber dans des extrêmes.
Ah
Donc,
oui.
je pouvais facilement me dire que ben, je ne mangeais pas pendant tant de jours, ou je prenais juste des jus pendant tant de jours, ou je prenais juste une pomme, ou je faisais juste ci, je faisais juste ça. Et vers 26, 27 ans, à 26 ans, je pense, si je ne me trompe pas, c'est là que j'ai vraiment été au max de mon poids. Tu sais, j'ai revu des photos, puis là, j'étais toujours sur Internet. À 26 ans, tous les jours, je mettais des photos de mes looks sur Internet. Tout d'un coup, j'ai pris une décision que j'allais maigrir, mais je l'ai faite de façon hyper drastique. Et je disais tout le temps que tout allait bien, mais je commençais à manquer d'énergie, je commençais des fois à avoir des points noirs, je commençais à pas me sentir bien. Et je me souviens pas exactement le déclic que j'ai eu, parce qu'on dirait que c'est des moments qui t'effacent dans ta tête, mais je me souviens que dans cette année-là, tout d'un coup, j'ai fait ce que je fais en ce moment. C'est ce que j'ai vu d'autres personnes que j'aime faire, c'est se rendre malade. Et je me suis choisie. Est-ce que j'ai tout guéri cette année-là, mes bobos? 100% non. Parce qu'on pourra en parler plus tard, après, sur Internet, je me suis mis à modifier mes photos, parce qu'au lieu de modifier mon corps, j'ai modifié mes photos, ce qui était guère mieux. Mais j'avais choisi quand même d'être en santé. Est-ce que ça veut dire que tout allait bien? Non, parce que je pense qu'une personne fait grandir en elle, ou qui a subi des bébites en elle qui se sont mis à grandir, va avoir peut-être un combat toute sa vie à certains moments. J'ai la chance maintenant de dire que je pense que moi, la maternité a vraiment réglé énormément de choses, puis on pourra en parler. Moi, ça m'a vraiment. On dirait que mon corps a pris vraiment une autre tournure. Mais ce moment-là, à 27 ans, j'ai fait, là, Camille, tu es en train de tomber dans quelque chose qui n'a pas d'allure. T'sais. Tu mets plus d'efforts sur ton poids que sur ton entreprise, parce que tu sais, j'ai une agence de marketing web qui s'appelle Codemors, où j'avais des gens avec qui je travaillais, tout ça. Là, le focus de ta vie n'est pas à la bonne place. J'ai eu la chance d'avoir ce déclic-là, puis je suis convaincue que c'est des gens autour de moi qui ont dû me parler, puis tout d'un coup, ça s'est fait, puis on dirait que j'ai une espèce de nuage, je me souviens pas c'est qui, ou c'est quoi, ou comment, mais il y a des gens qui n'arrivent pas à l'avoir, puis qui ont besoin d'aide, puis je pense que c'est pour ça que c'est important d'en parler, parce que peu importe le poids, si quelqu'un se rend là, dans la
Tout à
spirale,
fait.
ça peut aller très, très loin, tu sais.
Tout à fait. C'est un bon point que tu nommes parce que toi, ce qui était encore plus challengeant, c'est que tu étais ultra exposée sur les réseaux sociaux. Comme tu dis, ton corps était montré régulièrement. Fait que, tu sais, parlons-en de ça. Comment tu as réussi à naviguer finalement au travers de ça puis à te sortir un peu de cet usage-là de. Des filtres ou autres ou des modifications de photos, puis accepter que non, c'est ça mon corps. Puis c'est pas juste l'accepter toi, mais c'est t'exposer à toute cette critique-là qui est, on va se le dire, pas facile à gérer. C'est quelque chose, là, les réseaux sociaux. C'est vraiment raide, là. C'est vraiment, vraiment raide, là. Des fois, ça peut même être toxique. Il faut apprendre à se détacher de ça. Mais là, je me dis, toi, c'est encore plus intime. C'est ton corps qui était exposé. C'était toi, là. Ça, je suis vraiment curieuse de savoir comment tu es arrivée à te détacher, je pense, de ça.
Bien, c'est sûr que comment ça fonctionnait, puis ça fonctionne encore avec le cahier. Là, je fais moins de photoshoots qu'avant parce que la plateforme a évolué. Mais comment ça fonctionnait, c'est qu'on avait des photoshoots avec des photographes à chaque mois. Les photographes, oui, retouchaient les photos, mais le motto, c'était on enlève ce qui n'est pas permanent. Exemple, j'ai un bouton blanc, on l'enlève. J'ai une ride, on ne l'enlève pas. Donc, il n'allait pas transformer mon corps. Mais par contre, quand une photographe prend des photos, pour un look, elle peut en prendre une quarantaine. Et là, je choisissais deux ou trois photos où je trouvais les angles flatteurs que j'aimais, etc. Donc, quand on prenait des photos de photographes, c'était jamais retouché de manière à transformer le corps. C'est sûr que l'année où j'avais perdu 20 livres, j'ai eu immensément de beaux commentaires, de combien j'étais jolie, etc., etc. Mais il y a des gens qui en parlaient à d'autres personnes autour de moi, puis ils s'inquiétaient de me voir fondre à vue d'œil aussi si rapidement.
Ah oui.
Mais c'était pas à moi qu'on le disait. Ensuite, ce qui s'est passé dans les années qui ont suivi, il y a eu l'apparition de différentes applications. On pense à Facetune, par exemple, que tout le monde connaît, qui permettait de modifier son corps ou tout simplement Photoshop quand tu apprends à l'utiliser. Et quand moi, je prenais les photos avec mon téléphone ou que mon copain en prenait, mais mon copain, il n'en prenait pas 40. Mon copain, il va m'en prendre une ou deux, puis c'est voilà, Camille, arrange-toi avec ça.
Ouais.
Et des fois, ce n'était pas l'angle qui était le plus flatteur, des choses comme ça. Donc, je me suis fait prendre au jeu de faire comme, ah, si je change un peu, mais pas trop, juste un peu, parce que je ne deviens pas cette fille-là dont tout l'Instagram est fake, parce que de toute façon, les gens me voient quotidiennement avec des photos de photographes. Donc, je ne peux pas non plus me transformer à 100%. Mais je vais faire en sorte que la photo devienne plus belle, plus ci, plus ça. Tic, 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 tic. Ah, ben, je rapetisse mon nez. Un petit peu, mais juste assez pour que. Je trouve que c'est le petit plus. Je vais allonger mes jambes parce que je mesure 5 pieds 3. J'ai les mains, tu sais. Fait que c'était jamais quelque chose qui était outrancieux, mais c'était quand même, la ligne était là de la photo n'était pas moi sur le moment présent. Puis quand on voit les avant-après, c'était pas moi. Puis c'est devenu un réflexe que je passais mes photos directement là, tout le temps, tout le temps. J'allais aller les modifier un petit peu, les miennes. Parce que ça, les photographes, je ne pouvais pas le faire de toute façon. Mais les photographes, on se rappelle, je choisissais le meilleur angle.
Oui, mais ça
Donc.
reste qu'un photographe, on va se le dire, c'est pas la même chose. Là, ils sont là pour aller chercher vraiment la bonne lumière, le bon angle, pour avoir fait l'exercice moi-même. Et boy, c'est pas la même game là, que quand tu te prends en photo, là.
Non, non, du tout. Fait que c'est sûr que là, tu tombes dans un espèce de cercle vicieux, puis tout d'un coup, moi, c'est. Une fille qui est adolescente dans mon entourage, dans ma famille, qui à un moment donné me parle, puis qu'elle se trouve pas belle. Puis qu'elle se trouve pas belle parce qu'elle ressemble pas aux filles sur Instagram, puis qu'elle trouve que moi, je suis non bien belle. Puis elle me montre des photos que moi, j'ai modifiées.
Aïe.
Et je me souviens avoir figé, me dit, attends, ce que je fais parce que j'ai des bébites que je pensais avoir réglées, parce que finalement, j'étais plus. Je mangeais. J'étais comme dans ma tête, je mange, j'ai réglé mes bébites. Pas tant. Parce que finalement, je mange, mais je continue à pas bien. Tu sais, il y avait quelque chose qui roulait pas rond nécessairement. Et là, c'est de se faire dire ça par une jeune fille. Puis là, tu dis, moi, ce que je fais et que je pense qui n'impacte que moi, finalement, ça vient avoir un impact sur des jeunes filles qui n'ont pas une bonne estime d'elles-mêmes parce qu'elles se comparent à quelque chose que je mets sur Internet qui n'existe pas.
Quand même, hein?
Et c'est là que j'ai fait, faut que j'arrête ça, ça n'a aucun sens. Je suis arrivée sur Internet au tout début parce que je voulais me créer un média, parce que j'avais étudié en journalisme et qu'il n'y avait pas de place à l'époque, puis que j'avais créé un blog, tatata. Mais les premières fois que j'avais fait des looks, c'était pour montrer qu'on n'était pas obligé d'être la grande fille mince pour porter des looks. Puis là, j'étais en train de faire la même affaire à une adolescente. Fait que moi, je me souviens que ça avait été hyper frappant où je m'étais dit, là, il faut que ça cesse. Donc, quitte à mettre moins de photos. Quand t'en as que tu te trouves pas belle. Parce que t'es pas obligé de mettre toutes les photos que tu prends, là. On a tout un angle où c'est pas.
Ben
C'est
oui,
pas
ben
super
oui.
flatteur, la gang, là. Puis c'est correct, tu sais.
Ben
Donc,
oui.
j'étais comme. T'es pas obligé de tout mettre. Mais est-ce que tu peux décider de ne plus retoucher ces photos-là?
Ouais, c'est
Donc, moi,
bon.
ça a été vraiment là que j'ai fait OK. Et il y en a certains, peut-être, qui vont l'écouter, qui vont dire oui, on t'a vu à RAD, l'entrevue que j'ai donnée à Radio-Canada, RAD, où j'en ai parlé. Puis ça aussi, ça a été un moment marquant parce que je me souviens quand les journalistes de RAD sont venus chez moi. J'étais là, OK, c'est la première fois que je vais dire haut et fort que j'ai retouché des photos. Et quand l'entrevue est sortie, il y en a qui m'ont rentré dedans, qui m'ont vraiment dit que ce que j'avais fait n'était pas correct, mais j'ai pas fait cette entrevue-là. Pour me faire dire que c'était bien ou que c'était pas bien. J'ai fait
Non,
cette
c'est ça.
entrevue-là pour. Parce que je suis pas la seule qui fait ça ou qui a
Ben
fait ça.
non, ben non. Hey, c'est sévère là, de juger ça, là, je veux dire. Surtout recul de. C'était la norme aussi, là, avant, là.
Ben oui. Fait que je regrette pas du tout cette entrevue. J'avoue que la journée de l'entrevue, j'ai eu très, très peur. La journée où elle est sortie sur Internet, j'ai eu très, très peur. Mais au fond de moi, je me disais, si jamais je perds ma place, parce que. C'est un privilège d'avoir une place dans les médias aussi. Puis je m'étais dit, jamais je perds ma place dans les médias pour ça, c'est correct. Parce que j'ai fait une entrevue à laquelle je croyais, puis je pense qu'il peut apporter à d'autres. Et finalement, il y a eu plus de bons commentaires que de backlash, mais j'espère que ça a pu allumer des petites lanternes chez certaines filles que ce qu'elles voient. Puis je pense que maintenant, on est déjà beaucoup plus consentis qu'on l'était il y a trois ans, je pense, à peu près. On dirait qu'avec le COVID, on perd les années. Mais
ouais, vraiment.
J'espère que ça a allumé des lanternes, que ouais, tout ce qu'on voit sur Internet n'est pas vrai. Puis d'autant plus avec l'intelligence artificielle de nos jours. Et que le but de la vie, ce n'est pas d'être la plus belle possible.
Ah, j'aime ça. Vraiment. Puis honnêtement, chapeau de l'avoir fait puis d'avoir osé, parce que tu sais, des sujets comme ça qu'on le sait qui sont tabous, puis qu'on le sait qui divisent, puis qu'on le sait qu'on s'expose à de la critique, mais qu'on le sait au fond de nous que c'est important, ça prend de la force en Titi là, pour le faire, mais c'est, ça fait une différence. Ça fait une différence, comme tu l'as dit, les filles qui vont lire ça puis qui vont faire comme « Ah, oh, hey, ça m'enlève-tu une pression? » Je voulais avoir ce standard-là, je voulais y ressembler, puis finalement, crime, elle aussi a vu des affaires. Elle aussi a vu des affaires, puis elle a l'air, tu sais, des fois, on se dit, ah, elle a l'air tellement bien, elle a le pas avoir de complexe, puis la vie est belle, puis j'aimerais donc ça, normalisons donc, ben non, tu sais, on vit tous dans la même société à laquelle on accorde, on va se dire, une place peut-être trop importante à l'apparence. C'est le fun de savoir que, ben, tu peux arrêter de te taper sa tête, tu sais, c'est normal ce que tu vis, puis ben, il y a moyen de s'en détacher aussi, puis d'avancer, parce que toi, tu l'avoues, ça montre que tu as fait un chemin aussi, puis que ce chemin-là, ben, il est possible pour les filles qui vont l'entendre.
Tout à fait, puis tu sais, je pense que la fille que j'étais, exemple, tu sais, moi j'ai fini le secondaire au début des années 2000, c'était pas la société d'aujourd'hui, tu sais, je me dis, une fille qui finit le secondaire aujourd'hui, il y a toute l'industrie des chirurgies plastiques qui, pour nous, était quelque chose qui était zéro accessible, qui l'est énormément. Oui, il y a tous les filtres. Oui, il y a l'intelligence artificielle. Il y a la pression des réseaux sociaux. Tu sais, moi, les réseaux sociaux sont apparus. J'étais cégep université. Tu sais, cégep, ouais, ça commençait avec Facebook. Donc,
ouais,
je pense qu'une jeune fille aujourd'hui a accès à beaucoup plus de pression.
Tellement.
Et est-ce que la Camille de 17-18 ans aurait fait des bons choix aujourd'hui? Je ne sais pas. Puis c'est ça qui me fait peur. Tu sais, je me dis, est-ce que je me serais fait finalement injecter à avoir un bec de canard? Est-ce que, tu sais, puis là, je suis là, ah! Oh, c'est le débat intérieur que doivent vivre. Et là, on dit filles, mais les gars aussi, parce que les gars, ils ont complètement. Tu sais, c'est peut-être pas les mêmes choses, mais il y a ça aussi. Tu sais, je suis heureuse de ne pas avoir grandi là-dedans, mais maintenant que je suis maman, je suis très consciente aussi que je ne sais pas ça va être quoi dans 15 ans et qu'il va falloir que je m'outille pour pouvoir accompagner mes enfants là-dedans peut-être un jour. T'sais.
Mais c'est ça qui est spécial parce que on a vraiment un gros changement dans notre génération où moi aussi, là, les réseaux sociaux, j'ai 33, là, ils sont apparus très tard dans ma vie. Puis je me dis, mon Dieu, comment on navigue maintenant avec nos enfants au travers de ça? Puis, tu sais, les premières notions d'insatisfaction corporelle ont été observées à partir de l'âge de 3 ans, là. C'est quand même intense. Puis, c'est sûr que les réseaux sociaux ont une certaine part à jouer, mais c'est vraiment pas évident à naviguer comme parent qui a connu ça sur le tard un petit peu. Puis là, tu sais, on est quand même jeune relativement, mais on pense aux parents qui sont parents d'ados maintenant, qui ont peut-être plus dans la quarantaine, la cinquantaine, ça doit être encore plus déroutant, tout ça. Par chance, il existe de plus en plus de ressources pour aider ces gens-là, mais reste que, on va se le dire, c'est tout qu'un défi. Puis ça donne aussi accès à plein d'informations et de désinformations, puis ça, c'est comme tout un autre dossier aussi, mais c'est facile de s'en aller vers le chemin des troubles alimentaires parce qu'il y a beaucoup de comportements associés aux troubles alimentaires qui sont valorisés sur les réseaux sociaux puis qui sont valorisés parfois dans même la communauté des influenceurs parce qu'ils savent même pas eux-mêmes qu'ils ont une relation troublée avec la nourriture. Fait que c'est des bons défis, c'est des bons défis.
Mais tu peux peut-être avoir une pointe d'espoir. J'ai une pointe d'espoir parce qu'on dirait que je trouve que quand tu regardes les Gen Z, il y a une espèce de clivage, je trouve. Tu as tous ceux qui disent hey, « Moi, peu importe de quoi j'ai l'air, je m'accepte comme ça, puis on va avoir une société qui va s'accepter, puis on va s'accepter dans nos différences corporelles, mais nos différences religieuses, nos différences de choix sexuels, etc.
Ouais. »
Donc ça, j'y trouve tellement inspirant parce que je me dis « OK, ils sont en train de dire hey, « Arrêtez avec toute cette pression. » Mais là, tu en as toute une autre gang qui, eux, embarquent à fond. Fait que sais, je veux pas dire le mot hâte, mais tu sais, je pense que ça va être de voir comment ça va se développer, comment la génération qui va suivre va embarquer. Fait que, tu sais, je me dis, il y a quand même aussi beaucoup d'espoir, tu sais. Quand moi, j'étais ado puis qu'on nageait, si on avait un poil en dessous de l'aisselle pour une femme, tout le monde te l'avait dit, là, qu'il y avait ce poil-là que tu avais oublié d'épiler. Là,
ah,
puis
ouais.
Très, très vite, tu apprenais que ton bikini était mieux d'être impeccable parce que tu es en maillot, ma grande, 6-8 fois par semaine et tu n'as pas le droit d'avoir un petit poil qui sort. Puis tu apprends ça très, très vite, puis à la dure. Puis,
yes.
Faut toujours, tu es toujours en maillot, fait qu'il faut toujours que tu n'aies pas un poil, pas un ci, pas un ça. Tu as une vergeture parce que tu as grandi trop vite, tout ça. Tandis que j'ai l'impression que tout un groupe de jeunes qui disent « ben moi, mon poil de dessous de bras, pourquoi il n'est pas correct si je suis une fille, mais il est correct si je suis un gars? » Tu as toute cette mouvance-là sur Internet que nous, on n'avait pas. Puis peut-être qu'on y croyait, mais on se disait hey, « je ne vais pas dire ça parce que je vais me faire lancer toutes les tomates du monde. » Et je trouve que cette génération-là est en train de libérer beaucoup de choses. Puis je le vois même autour de moi, des hommes et des femmes dans la mi-trentaine comme moi qui sont comme « oh, la fille, elle a du poil en dessous des bras. » Puis je suis comme « so what? » So what? Qu'est-ce que ça nous change? Donc, je me dis, si c'est des jeunes qui sont en train de dire aux plus vieux, vous êtes bien nono avec vos standards, ben tant mieux.
Yeah.
Tant mieux. Fait que je trouve qu'il y a quand même un espoir qui est là. Parce que quelqu'un ici me dise pourquoi le poil des gars va moins puer, va être plus propre que celui des filles, j'aimerais vraiment qu'on me l'explique parce que ça, je ne l'ai pas encore compris. Mais tu sais, je veux dire, ça va aussi avec... Oui, on a le maudit poids, mais moi, pour moi, poids, apparence physique, c'est toutes des choses qui vont les unes avec les autres. Donc, je trouve qu'il y a quand même on parle souvent des côtés négatifs, mais il y a quand même un vent d'espoir dans cette génération-là qui est quand même intéressant à suivre.
Oui, merci de le nommer. Ça fait du bien à entendre, effectivement. Mais c'est vrai, les plus jeunes ont vraiment une ouverture qui est différente. Puis je pense qu'on les prend peut-être... puis là, tu sais, je parle pas en connaissance de cause parce que j'en côtoie pas énormément, là, mais... Je pense qu'à l'école aussi, c'est des thèmes qui sont de plus en plus abordés, la diversité, l'inclusion, même si d'un autre côté, on dit qu'il y a beaucoup de chemin à faire. Le reste, que si au moins eux sont élevés de cette façon-là, bien, ça peut que teindre de positif vers les générations plus vieilles qui sont plus, des fois, récalcitrantes au changement. Fait que merci de le, merci de le nommer.
Plaisir. Puis, tu sais, là, tantôt, je pense qu'on parlait d'autres choses aussi, puis je pense que ça va peut-être résonner avec certaines personnes qui écoutent. J'assume qu'il y a plus de femmes que d'hommes, mais il y a peut-être des hommes aussi qui écoutent.
Il y en a un petit peu, oui. Dans, selon les stats, il y en a un petit peu. Fait qu'on les salue.
Tu sais, je pense que pas toutes les femmes auront des enfants dans leur vie, pas toutes les femmes veulent des enfants, mais je pense que quand tu en veux, la grossesse est un moment où le rapport à ton corps se transforme énormément. Puis au moment où on fait cette entrevue, ben, je ne sais pas quand elle va être en ligne nécessairement, mais au moment où on fait cette entrevue, j'étais à 28 semaines de grossesse pour mon deuxième.
Ah! Mon Dieu, je ne savais pas. Félicitations!
Donc, j'attends un deuxième petit garçon.
Wow!
Puis avant de parler de ma relation à mon corps, je veux dire, ce qui est drôle, triste, quand j'ai su que j'avais un deuxième petit garçon, je me suis dit, ah, il y a des défis que je n'aurais... J'avais pas, je ne veux pas dire une déception, mais je pense qu'on aurait aimé ça, vivre une petite fille, un petit gars. Est-ce qu'on va peut-être avoir un troisième enfant? C'est pas... Le oui n'est pas là. Fait que pour tous ceux qui me le demandent sur Instagram presque quotidiennement, on va commencer par en avoir deux, puis on verra aussi notre réalité, puis le genre de famille qu'on a envie d'être. On y va un à la fois. Fait que vous me poserez cette question-là si vous voulez dans 5 ans. Entre-temps, non. Mais... En sachant que j'avais deux petits garçons, je me disais, il y a des défis que peut-être je vais avoir moins fort. Peut-être pas non plus, parce que, comme on se dit, c'est des problèmes que les gars vont avoir aussi, mais ça a été un réflexe que je me suis dit, ah, il y a des choses qui vont peut-être moins m'inquiéter rendu à l'adolescence. Puis je me dis, mais comme c'est triste.
Oui, totalement.
Et quand je me souviens très bien quand j'étais enceinte de Paul, mon fils qui a 2 ans, je m'étais dit, moi, je pensais avoir une petite fille. Parce qu'on dirait que tu t'attends toujours à ton sexe, presque. Mais bref, moi, j'étais sûre que j'avais une petite fille. Bon, finalement, non, hein, je me suis bien trompée. Et je me disais, je vais en faire une femme forte, je vais en faire une femme indépendante, je vais en faire une femme qui va croire en elle, qui va aller loin, qui n'aura peut-être pas des défis que j'ai eus, mais qui va être un peu comme moi aussi, qui va être fonceuse, frondeuse, tata, tata. Tu sais, je vais l'élever à croire en elle. Et là, quand j'ai su que j'avais un garçon, je me dis, OK, ton gros défi, Camille, avec un garçon, ça va être d'en faire un allié. Parce que ton fils, tu sais, on parlait tantôt de privilèges, puis je me dis, ton fils est pas mal dans le top de la pyramide des privilèges au monde. Tu sais, c'est un homme blanc qui a 2 parents qui ont des bons emplois, qui va avoir accès à une bonne éducation, qui va avoir... Et tu sais, là, après, tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver, tu sais, tout ça dans la vie, là, mais pour l'instant, c'est un enfant qui n'a pas, à 2 ans, qui est à la garderie, qui n'a pas l'air d'avoir de problème, qui n'a pas d'handicap, qui a pas. Fait que, tu sais, je me suis dit, cette personne-là, ça va être d'en faire un allié, puis ça va être d'en faire quelqu'un qui va respecter les autres. Puis oui, il y a plein de sphères, mais il y a aussi la sphère qui va devoir apprendre à ne pas commenter le poids des
Exact.
jeunes filles, le look des jeunes filles, etc. Fait que là, je me suis dit, OK,
Amen.
ton défi en tant que maman va peut-être être même, je ne veux pas dire plus grand parce que je pense que toutes les mamans vivent des défis, mais ça va être un défi auquel je ne m'attendais pas autant, puis que je me
Ouais.
suis dit que je me donnais. Fait que
Ouais.
c'est mon petit aparté par rapport à être maman de garçon. Mais pour revenir, tu sais, première grossesse, beaucoup de monde m'ont vite demandé, puis c'est une question qui revenait, est-ce que ça t'inquiète pour ton corps? Est-ce que ça t'inquiète les changements sur ton corps? Est-ce que tu as peur des vergetures? Est-ce que tu as peur
Ah
de ne pas
ouais,
perdre le poids? Est-ce que tu
hein?
as
Ah, c'est
peur de plus
fou.
jamais rentrer dans tes vêtements? Ah, tes seins vont
Voyons.
changer parce que tu as toujours des petits seins, fait que tu vas avoir des gros seins, peut-être qu'après tes seins vont être vidés, peut-être que ça va être des queues de castor.
Ben voyons donc. C'est des commentaires que tu as reçus?
Que j'ai reçu autant parler gentiment, là, que la personne était comme, elle se veut bienveillante, mais elle ne l'est pas. Autant j'en ai eu sur Internet, autant, est-ce que tu vas essayer de perdre ton poids après? En combien de temps tu vas perdre ton poids? Comment que tu.
Mais voyons.
Moi, j'étais comme, OK. Je peux facilement retomber, puis je le
Ben
sais.
oui, ben oui.
Les gens ne le savent pas nécessairement non plus, puis il n'y a pas de méchanceté. Donc, c'était de se dire, qu'est-ce que moi je fais pour ne pas vivre une grossesse où je vais me peser, puis où je vais. Parce que pendant que je suis enceinte, le plus important, c'est ce qu'il y a dans mon ventre. Donc, c'est que lui est tout ce dont il a besoin. Et j'ai dit une phrase d'un coup, et après, je me suis dit, ah, c'est pas une bonne phrase à dire. Puis je me dis, ah, c'est un problème pour la famille, la Camille, tout ça. Mais je me dis, pourquoi c'est un problème? Attends, tu viens de dire que c'est un problème pour la Camille de demain, mais là, tu dis que c'est un problème, ça veut dire que ça ne va pas nécessairement bien. Puis c'est pas toutes les femmes qui vivent la grossesse de la même manière. Un peu comme c'est pas tout le monde qui vit sa puberté de la même manière. Tout n'arrive pas en même temps. Tu sais, deux femmes qui partent au moins même poids, qui vont faire la même activité physique, qui vont manger la même chose, vont pas peut-être pas prendre le même poids, les hanches vont peut-être pas ouvrir de la même manière, vont pas ouvrir à la même semaine. Est-ce que tes bras vont, est-ce que tu vas faire de la rétention d'eau, tu vas pas faire de rétention d'eau, tu sais, il y a plein de choses. Ton corps va réagir d'une manière. Donc, dans ma première grossesse, moi, il y a tout d'un coup, il fallait que je me parle, que je me dise, Camille, ce que ton corps fait en ce moment, c'est beaucoup plus grand que tous tes bobos. Mais quand après tu as ton enfant, puis que ton enfant t'aime de manière inconditionnelle, ton enfant, là, il s'en fout complètement. Ton corps, il t'a permis d'avoir cet enfant-là. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir allaiter pendant 22 mois. Mon corps m'a permis d'allaiter parce que, en fait, je suis retombée enceinte quand j'allaitais. Et moi, ça m'a fait très mal. C'est pour ça que j'aurais allaité sûrement plus longtemps, mais là, j'étais comme, je suis plus capable d'allaiter. Mais j'ai arrêté à 22 mois, t'sais. Donc, mon corps a quand même allaité mon fils pendant 22 mois. Puis là, je suis en train d'en avoir un deuxième. T'sais, là, moi, c'est sûr que comme mon premier enfant était prématuré, en ce moment, j'ai certaines choses que je ne peux pas faire. T'sais, je ne peux pas courir tandis que je suis une fille qui court d'habitude. Il faut que je fasse attention pour pas avoir un deuxième petit prématuré dans un monde idéal. Donc, ce que je m'ennuie, ce n'est pas de mon corps plus mince ou de mon corps. Ce que je m'ennuie, c'est de faire du sport. Ce que je m'ennuie,
Oui.
c'est de me pousser à la limite de mon énergie, etc. Donc, puis quand des fois, je me regarde dans le miroir, puis je suis comme, parce que c'est mes fesses dans mon maillot, il me semble que ce n'est tellement pas important. Et soit tu reviendras pas loin de la Camille d'avant après pour l'été prochain, ou non. Et tu t'achèteras un maillot qui t'ira. Puis ça finira là. T'sais, mon but post-grossesse, ce n'est pas de re-rentrer dans mes maillots, de re-rentrer dans mes jeans, de re-rentrer dans mes vêtements. Mon but post-grossesse, c'est de recourir mon 5 km à la même vitesse que je le courais.
Ah, c'est bon, j'aime ça.
Si je cours ce 5 km-là à la même vitesse, mais que j'ai pris deux tailles de jeans, bien, ça sera ça.
Ouais.
Puis, je pense que c'est un moment de la vie où les femmes vivent énormément de pression, puis qu'on en parle moins aussi.
Oui, tellement, tellement.
Mais tu sais, la petite bédaine est valorisée, la grosse bédaine est moins
Ah oui.
valorisée.
Oh my God.
Plein de choses comme ça. Tu sais, moi, je fais de la rétention d'eau. J'ai mon premier est né en mois de juin, fait que j'ai pas trop vécu l'été. En ce moment, je rentre pas dans les trois quarts de mes souliers. Ça fait aucun sens. Mes pieds, c'est des ballons. On dirait des pieds de hobbit. Je suis comme, bah, je porterai mes sandales l'été prochain. C'est la vie. Je porte des grosses gougounes. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a tout ça aussi dans la grossesse dont on ne parle pas. Puis on demande aux mamans de faire comme les photos d'Hollywood et de. Ils écrivent toujours bounce back, là. Bounce back de quoi?
Oui.
Tu sais,
Hey.
t'as accouché. Pour plusieurs mamans, c'est genre l'opération, la plus grande opération qu'ils vont vivre dans leur vie. Tu sais. Je veux dire, quand on pense à ça, tu sais, celles qui vivent une césarienne, c'est énorme comme opération. Puis on leur demande tout de suite de s'occuper d'un enfant et en plus, on leur demande de bounce back. Puis je suis comme, non, là, est-ce qu'on peut juste laisser le corps de côté puis se concentrer sur ce qui est vraiment important. Une personne est devenue une maman et elle vit quelque chose de beaucoup plus grand que son corps. Puis moi, c'est ce que ça a fait. C'est que mon corps, j'étais comme... Moi, j'ai juste envie qu'il soit fonctionnel.
Ouais.
Bref, moi, la maternité m'a beaucoup réconciliée avec mon corps. Donc, il faudrait que je dise merci à mes enfants.
Mais je l'entends souvent, c'est Camille... au cours de mes témoignages ou même chez certaines clientes, tu sais, souvent, ça va faire un switch dans un sens ou dans l'autre. Souvent, justement, que ça aide à dire, bien, OK, ma priorité, c'est plus ça, tu sais. Puis, je veux dire, tu viens d'avoir un enfant, ta vie vient de changer, tu dors plus de la même façon, tu peux plus bouger de la même façon, tu peux plus cuisiner de la même façon, tu sais. C'est normal que ton corps, il soit différent. Puis, de revenir au corps d'avant, c'est quoi le corps d'avant? T'es plus la femme d'avant, tu sais. T'es maman maintenant, c'est tellement différent. Puis autant aussi, ce que j'entends souvent, c'est que les filles, des fois, vont pas nécessairement avoir entamé ce cheminement-là, mais le déclic va se faire à l'enfant, dire « OK, peut-être que j'étais pas prête pour le faire pour moi avant, mais si je le fais pas pour moi, je vais au moins le faire pour mes enfants, puis je vais le faire, ce travail-là, tu sais. » Fait que ça amène souvent des belles choses quand même, malgré que ça amène son lot aussi d'insécurité, puis de... C'est sûr, le corps change, là, c'est très vulnérabilisant, puis oui, les commentaires « et que c'est présent et... » encore tellement normalisé sur la forme de la bédaine, la grosseur de la bédaine, de comment ça se passe après. Tu sais, nombre de clientes qui m'ont dit, la première chose que les gens m'ont demandé quand ils m'ont vu la première fois que j'ai accouché, c'est « Pis, t'as-tu réussi à perdre ton poids? » Ben, voyons donc, t'as tellement d'autres sujets à me demander, tu sais, on peut-tu, comme collectivement, juste prendre un petit moment pour de réflexion puis dire « Ça fait-tu du sens que ça soit son corps ou son poids que je commente en premier, tu sais, c'est tellement réflexe de dire « Oh my God, t'as donc bien perdu vite » ou « Oh, OK, tu dois trouver ça dur, t'as pas perdu, t'as peu, là. » C'est zéro prioritaire comme sujet. Pourquoi on parle de ça?
Non, puis c'est de, tu sais, je pense que, tu sais, pour ceux qui nous écoutent, hommes, et pour les femmes qui sont peut-être pas mamans, c'est d'être, encore une fois, le mot « allié », mais d'être des alliés de ces femmes-là. Ouais. De leur dire qu'elles sont, oui, qu'elles sont belles, peu importe, mais aussi de leur dire que comment tu vas? Tu sais, comment ça va? Est-ce que
tu vas, maman?
Ouais, est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu as mal? Tu sais, on demande si elle a perdu son poids, puis on lui demande pas si ça lui fait mal d'aller aux toilettes. Des fois, tu sais, je
c'est
sais,
vrai.
Oui, peut-être pas d'aller aux toilettes, mais moi, je le demande parce qu'on dirait que maintenant, je suis dédramatisée, là. Mais, tu sais, est-ce que ça va? Est-ce que tu es capable de marcher? Est-ce que tu sens une pression dans ton bas-ventre? Est-ce que tu t'en prêtes? Est-ce que tu as envie de reprendre possession de ton corps? Hey, est-ce que tu voudrais que je m'occupe de ton bébé le temps que tu ailles faire un 20 minutes de jogging pour toi? Si tu n'as pas envie de ça, tu n'es pas obligée non plus. Mais si, tu sais, moi, je suis une fille qui en a hâte, donc tu sais, je pense que ça, c'est pour moi. Puis comme je répétais tantôt, c'est parce que j'ai hâte de bouger. Mais oui. Je pense que c'est de devenir des alliés de ces mamans-là puis de dédramatiser pour elles. Tu sais, quand tu vois une qui dit qu'elle ne veut pas se mettre en maillot, de lui dire que si elle ne veut pas se mettre, elle n'est pas obligée, mais qu'il n'y a personne qui va juger ce qui a changé parce que. Techniquement, si t'es proche d'une personne qui devient maman, c'est que tu l'aimes vraiment pour autre chose que son corps.
Oui, puis sinon, peut-être revoir l'entourage, tu sais, parce que c'est pas vraiment une valeur qu'on veut nécessairement partager avec la personne si l'apparence est au cœur de tout ça, là.
Tout à fait. Fait que je pense que c'est une période qui peut être charnière. Puis pour les mamans qui ont des petites filles, je me dis, ou des petits gars aussi, comme je dis tout le temps, mais je me dis c'est un moment pour montrer à ces enfants-là qu'il y a des choses beaucoup plus importantes. Puis tu sais, après, je ne mentirais pas de dire qu'avant Noël, on est parti presque plus que 3 semaines, mon chum, moi et mon fils qui avait 17 mois au Vietnam, on était allé faire vraiment un voyage sac à dos. Puis quand on faisait nos randonnées dans le nord du Vietnam, de village en village, que c'est moi qui avais le sac à dos, mon chum avait tout le nécessaire, moi j'avais le sac à dos avec mon fils, puis j'étais comme, ah, mon corps me repermet de faire des choses qui me font profondément plaisir, comme faire de la randonnée dans un autre pays, aller à la rencontre de d'autres cultures, puis c'est mon corps qui me le permet, parce que je suis capable de prendre mon fils qui a 1 an et demi sur mon dos, puis je suis capable de marcher pendant des 6 heures, bien moi c'est là que dans ma tête, j'avais un bel accomplissement dans mon rôle de maman, puis où mon corps de maman m'amenait. Puis c'est ce que j'espère revivre avec le deuxième. Fait que je pense que c'est se donner des buts de qu'est-ce que notre corps va nous permettre de réaliser. Fait que revenir à ce que mon corps était ado, en fait, c'est ma machine. Donc, ouais. C'est de se dire, qu'est-ce que ma machine va me permettre de faire? Puis quel souvenir ma machine va me permettre de collectionner dans ma vie? Puis qu'on soit maman ou pas, je pense que c'est ça, c'est de se dire, ça, c'est mon enveloppe, c'est ma machine, je vais la traiter la mieux possible parce que je veux qu'elle soit là le plus longtemps possible. Puis la traiter la mieux possible, c'est justement, c'est de faire pas faire attention à ce qu'on mange, mais manger intelligemment, c'est manger sainement. Manger sainement, c'est dans les deux sens. Je pense que si tu ne manges pas assez ou si tu coupes, exact. Ce n'est pas sain. Si tu manges trop, ce n'est pas sain non plus. Donc, c'est de manger sainement. C'est de faire du sport au niveau que tu peux en avoir besoin. Pas obligé d'en faire autant que moi. Je dis tout le temps, moi, c'est quelque chose qui me nourrit mentalement, intellectuellement. C'est ma pause. Tu sais, souvent, je dis aux gens, moi, je ne suis pas capable de faire de la méditation. Là, tu ne peux pas m'asseoir et me demander de faire.
Ouais. Ah oui, je te file.
Moi, quand on finit de faire de yoga puis quelqu'un comme, rentre dans ton corps, je suis comme, quoi? c'est non. C'est moi, je nage en plus, fait que je me dis, mon Dieu, il n'y a pas beaucoup de sport plus méditatif que nager. Là. Tu ne parles pas beaucoup, tu es pas mal la tête dans l'eau puis tu es pas mal avec toi-même. Fait que finalement, je le fais, mais je le fais en bougeant. Mais
autrement, bref. C'est ça. Ouais.
Fait que c'est de prendre soin de ta machine pour que ta machine te permette de faire tout ce que tu vas avoir envie de faire dans ta vie. Je pense que c'est là que. La maternité m'a permis de revenir à ce que la Camille de 12-13 ans pensait, puis qui était finalement la vraie réponse, puis que je me suis perdue en route.
Ben oui, c'est comme ben des adolescentes et adolescents vont faire, mais il y a toujours un retour éventuellement. Il y a de l'espoir, comme tu dis.
Ben on l'espère, tu sais, puis je pense que d'avouer qu'on a des bobos, parce que des fois les gens pensent que personne n'en a à part eux. Puis c'est pour ça que je disais au début que c'était important d'en parler, peu importe l'enveloppe.
C'est ça.
D'avouer qu'on a des bobos, c'est une première étape pour aller mieux, peu importe. Puis c'est un bobo entre soi et soi, mais c'est un bobo qui peut aussi atteindre les autres parce que je sais que par le passé, j'ai certainement blessé des personnes autour de moi parce que pour ces personnes-là, j'avais peut-être un corps qu'ils pouvaient envier. Puis moi, ils me voyaient me faire violence pour maigrir. Fait qu'ils... Puis moi, je leur disais que je les trouvais belles, même si elles étaient plus rondes que moi. Donc, à quel point ça devait être blessant que je leur dise que je les trouvais belles. Puis c'était vrai que je les trouvais belles, c'est ça le pire.
Oui.
C'est ça qui est bizarre, c'est que je les trouvais vraiment belles. Mais comment pouvaient-elles me croire quand elles réalisaient vraiment que moi, je ne me trouvais pas belle? Donc, je pense que oui, on se dit souvent que c'est un bobo entre nous et nous quand on a un problème dans notre vision de notre corps. Mais on peut aussi blesser autour de nous de manière très, très, très involontaire. Puis je suis la première qui l'a fait de manière involontaire avec des amis, malheureusement. Et il y en a certains à qui je me suis excusée. J'ai dit, tu sais, je pense que j'ai pas voulu te faire mal, puis j'ai dû te faire mal à un moment donné, along the way, mais j'allais pas bien non plus, tu sais.
C'est ça, exact. Exact. Merci pour ça. C'est un super beau témoignage. Et puis je suis vraiment contente qu'on l'ait abordé parce que... Bon, on l'a répété souvent, mais ça peut être tabou, ça peut être gênant. On ne sait pas à qui en parler, on ne sait pas comment en parler. On a peur de se faire justement virer de bord parce qu'on se fait dire que nous, on est dans un corps privilégié, donc on n'a pas à avoir des complexes, alors que c'est faux, tu sais. Je pense que ça revient à la notion de, comme tu disais au départ, tu sais, reconnaître que oui, on a des privilèges puis s'intéresser à ce que les gens qui en ont moins vivent, mais reste que... C'est correct que toi aussi, tu aies tes propres bébites, puis c'est correct que tu leur accordes l'attention, puis que tu les travailles, c'est bien normal, tu sais, faut pas se comparer, ça va toujours revenir à ça, mais il y a pas de petits bobos qui valent pas l'attention, tu sais, chaque bébite nécessite sa petite attention, finalement.
Ah, 1000%, puis tu sais, je pense que, tu sais, je sais que ça tire à sa fin, mais je dirais un sujet que je pense qui va être un sujet qui est important pour moi, c'est en tant que femme aussi la libération de la sexualisation de mon corps maintenant. Tu sais, je suis quelqu'un
qui, c'est bon ça.
Tout au long de ma vingtaine, exemple, moi, j'ai jamais eu honte, tu sais, on va se mentir, j'ai toujours eu des petits seins avant d'être maman. Donc, pour moi, mes seins n'étaient pas quelque chose que je sexualisais, puis j'en ai beaucoup parlé sur le blog, aussi très fréquemment, de moi, je n'ai jamais aimé porter de brassière, je trouve ça, mon Dieu, donc ben pas confortable. Donc, qu'on voit mes mamelons à travers mes vêtements, ça ne m'a jamais choquée, mais je sais que j'ai choqué plusieurs personnes. Puis je pense que maintenant, un combat que je veux mener, c'est aussi que les femmes puissent s'habiller comme elles le désirent, que ça ne soit pas vu négativement. pourquoi un homme aurait le droit de se promener en... En fait, il n'a pas le droit techniquement. Puis je trouve pas, tu sais, je trouve pas ça chic un gars qui se promène en bédaine dans la rue. Là, on va pas se mentir. Je suis comme, mais voyons, mets-toi un t-shirt, tu n'auras pas plus ce chaud. Là. En même temps, tu vas même avoir moins chaud. Mais c'est de se dire, est-ce qu'on peut diminuer la sexualisation de certaines parties des femmes puis accepter que les femmes ont les mêmes droits que les hommes et que si je décide de porter un chandail puis qu'on voit mes mamelons à travers mon chandail, ben moi, j'assume que tu vas peut-être me regarder, mais j'assume que je vais te regarder en retour aussi, puis j'ai le droit de te regarder vraiment bête si je vois que tu me juges. Donc, je pense que c'est la prochaine chose pour moi, c'est de se dire, il y a certaines choses qu'en Amérique du Nord, on sursexualise, puis on fait en sorte que les petites filles deviennent gênées de tout ça, mais il n'y a pas de gêne à avoir, tu sais. Puis c'est la prochaine chose, je pense, qui est importante dans ma relation avec le corps, je dirais.
Ah, j'aime ça. Merci. C'est un super bon point, effectivement. Excellent. Good. Puis ton mot de la fin, ton petit wrap-up, le message que tu aimerais, c'est ça, laisser aux femmes qui nous écoutent et aux hommes qui nous écoutent.
Ça va être super quétaine, mais je pense que de parler, puis c'est pas obligé d'être comme moi, là, tu sais, je veux dire, moi, je parle sur mon blog. Tu sais, quand je parle, je sais pas à qui je parle des fois, je parle à plusieurs personnes. Mais quand ça va pas bien, de tendre la main, de dire peu importe, de choisir la bonne personne par contre avec qui le faire. Je pense que des fois, on se dit que je vais tendre la main à mon amie, mais mon amie, je sais qu'elle va tout aussi bien, pas bien que moi, mais c'est celle avec qui je sens qu'on va se comprendre. Ben non, c'est peut-être de se dire à qui j'ai besoin, mais de demander de l'aide, de se dire qu'il n'y a pas de gêne. Que peu importe ton corps, ta relation avec celui-ci, ton passé, c'est demander de l'aide puis s'avouer que des fois, on a des passes difficiles, c'est une force. Et c'est ces passes-là qui vont faire que tu deviens encore plus fort puis tu vas être capable d'aider d'autres personnes, ou peut-être pas nécessairement d'aider, mais juste de plus être un problème dans l'engrenage. Donc, de lever la main, de dire « ça ne va pas ». Puis peu importe, tu sais, oui, on parle de poids, mais je pense que peu importe les problèmes, c'est de dire, tu sais, trop de travail, trop sur ça, c'est de dire, ça va pas, j'aurais besoin d'aide. C'est oser le faire. On est dans une société qui va plutôt valoriser des gens qui vont toujours bien. Mais même les gens qui vont toujours bien vont peut-être pas bien.
Oui, c'est les apparences, hein, c'est toujours en surface.
Oui, c'est souvent trompeur. Donc, je dirais ça, ne pas avoir peur de demander de l'aide parce que il y a un chemin qu'on est capable de faire tout seul, mais comme tu le disais, il y a plusieurs ressources qui existent, puis les utiliser sans honte, sans gêne. Puis si jamais on a honte, on est gêné avec notre entourage, bien, utiliser ces ressources-là qui existent, qui vont pas nécessairement en parler aux autres, mais qui vont te permettre de t'en sortir.
Oui, tout à fait, tout à fait. Puis d'ailleurs, concernant les troubles d'image corporelle, troubles de relation avec la nourriture, je vais mettre des ressources là, dans la description là, de l'épisode pour si jamais tu te sens interpellée par tout ça. Merci Camille. Merci beaucoup pour ton temps. Je sais qu'il est précieux. C'est une femme occupée. J'apprécie énormément ta présence aujourd'hui.
Ça me fait très plaisir.
Good. Fait que pour les autres, bien, on se revoit bientôt pour un prochain épisode. Prendre note que dans ce podcast, j'agis à titre d'animatrice. À noter donc que je ne peux endosser les propos tenus par mes invités puisqu'ils représentent leur opinion et expérience personnelle. En aucun cas, les propos tenus dans le cadre de cet épisode ne représentent des conseils nutritionnels personnalisés. Si jamais tu as besoin d'accompagnement, je t'invite à consulter le répertoire des nutritionnistes diététistes sur le site de l'Ordre professionnel des diététistes nutritionnistes du Québec, soit odnq.org. Merci et bonne écoute! Merci de ton écoute! Si jamais tu as des commentaires ou des suggestions sur le podcast, je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux Sarah Normandin, nutritionniste, Facebook et Instagram. Tu peux aussi consulter mon site internet sarahnormandinnutritionniste.com. Ça va me faire plaisir de jaser avec toi!